Un week-end pour convaincre sur LCI. Les 12 candidats à l'élection présidentielle sont tous sur LCI tout au long du week-end, en interview ou en meeting. Et nous recevons ce matin une des candidates à l'élection présidentielle. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Candidate de lutte ouvrière. Cette campagne, tout d'abord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait qu'elle a été empêchée au début déjà par la crise sanitaire, ensuite la crise en Ukraine. Mais vous, vous nous le disiez, vous avez beaucoup rencontré les Français, vous avez fait beaucoup de meetings, de réunions publiques. Qu'est-ce que vous disent les Français ces derniers mois? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Leurs préoccupations?
Là, je pense qu'on a basculé quand même dans l'angoisse de l'avenir. Parce que, bon, il y a cette flambée des prix qui, quand même, rappelle tous les jours que la vie est de plus en plus dure. Voilà. Mais il y a, bien sûr, la guerre en Ukraine.
Vous avez senti l'angoisse des Français quand même?
Oui, bien sûr, parce que je pense que tout le monde réalise qu'on plonge là dans une crise qui est grave. D'abord, personne ne peut savoir où s'arrêtera cette guerre. Et puis, on n'en mesure pas toutes les conséquences politiques, économiques et sociales. Et il y a déjà, vous savez, des entreprises qui sont au ralenti, qui sont même à l'arrêt à cause justement des ruptures d'approvisionnement de matières premières qui arrivaient de Russie. Ils replongent dans le chômage partiel qui avait été imposé pendant la pandémie. Voilà, y compris pour cela, ils se disent, mais est-ce qu'on va retourner au boulot?
Mais voilà. Pour vous, quelle est l'origine de cette guerre? Qu'est-ce qui provoque cette guerre?
L'origine de cette guerre, c'est un bras de fer qui existe dans la région, pas depuis hier, pas depuis un mois, pas depuis deux mois. En réalité, vous savez comme moi que quand l'Union soviétique a explosé en 91, l'OTAN qui avait été conçue précisément pour la contenir, pour l'isoler, pour l'affaiblir, ne s'est pas dissoute. Et au contraire, l'OTAN, avec bien sûr les États-Unis, la première puissance impérialiste au monde derrière, a poussé ses pions, a installé ses bases militaires et donc va chatouiller la Russie de Poutine depuis déjà des années et des années, ce qui provoque régulièrement des tensions qui ont explosé en 2014 avec la Crimée et la guerre dans le Donbass, et tensions qui aujourd'hui sont transformées en affrontements armés. C'est ça la réalité. Alors, bien sûr que c'est Poutine qui a fait le dernier pas et qui a décidé d'aller dans cette guerre monstrueuse, qui bombarde, et on voit très bien qu'il se moque littéralement du sort de la population ukrainienne, comme d'ailleurs, j'ai envie de dire, de la population russe. Donc il a une responsabilité écrasante. Mais je dis aussi, et j'accuse aussi, les puissances impérialistes d'avoir leur responsabilité dans la situation actuelle. Je les accuse même, en fait, d'avoir joué avec la peau des Ukrainiens, parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils faisaient de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer. Ils le savaient. Et quand on explique, jamais l'Ukraine n'a dit qu'elle allait aller dans l'OTAN. Mais enfin, écoutez, il y avait des soldats américains qui entraînaient l'armée ukrainienne. Tout ça, c'est quelque chose de très renseigné.
Mais l'Ukraine avait le droit de choisir si elle voulait entrer dans l'OTAN.
Oui, alors...
C'est son droit, non?
Vous savez, c'est le droit de tous les pays pauvres de se dire, je vais me jeter dans les bras de ce protecteur-là ou dans les bras de celui-ci. Mais justement, la guerre entre les grandes puissances, elle fait rage tous les jours dans les quatre coins du monde. Et dans cette guerre, oui, c'est Poutine qui bombarde, mais dans bien d'autres, en Irak, en Afghanistan, c'était les Américains qui bombardaient, c'est-à-dire le camp impérialiste qui a bombardé. Donc moi, clairement, je ne marche pas dans cette propagande grossière, expliquant que finalement, il y a Poutine, le camp dictatorial, autoritaire d'un côté, puis de l'autre côté, les belles démocraties qui défendent la paix dans le monde. Parce que ce n'est pas vrai.
Est-ce qu'il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine, en tout cas comme le fait Emmanuel Macron? Son attitude, comment vous la jugez par rapport à la crise actuelle?
D'abord, en réalité, vous savez, là, ils essayent tous, diaboliser Poutine. Mais Poutine, ils lui ont parlé. Non seulement ils lui ont parlé, mais ils l'ont invité. Enfin bon, c'est Emmanuel Macron qui l'a invité à Versailles, carrément. Alors là, il a eu droit à tous les honneurs. Souvenez-vous quand même que M. Fillon, ancien Premier ministre, travaillait pour ces fameux oligarques russes. Là.
Mais
donc,
il aurait
on dit
fallu
aujourd'hui,
ne plus parler à la Russie et couper les ponts, dès le départ, même avant, en amont.
La France n'a tellement pas coupé les ponts que, y compris, elle lui a quand même livré des armes. Jusqu'en 2020, rendez-vous compte, alors que la guerre dans le Donbass faisait déjà rage. Depuis 2014, il y a une guerre dans le Donbass qui a fait 14 000 morts. Eh bien, malgré l'embargo sur les armes, la France a continué de livrer des armes à Poutine. Alors moi, je peux vous dire que justement, tout ce sont des manœuvres. Et ces discussions, elles vont continuer. Elles continuent, hein, d'ailleurs. Et vous savez que finalement, ils vont finir par se rabibocher. Voilà, ils vont finir par faire avec Poutine en réalité.
Au prix de vie humaine sacrifiée.
Voilà. Pardon ?
Enfin, au prix de vie humaine sacrifiée.
Oui, mais ça, c'est leur politique, justement. Donc, moi, ma politique.
Mais quel est l'intérêt de nourrir le conflit ?
Ni à Poutine, ni à tous ces brigands qui en sont à la tête des différents pays et qui nous plongent régulièrement dans ce genre de situation à cause de leur rivalité. Moi, ma politique, c'est de m'appuyer sur les travailleurs, vous voyez ? Sur les travailleurs en Russie, les travailleurs en Ukraine, les travailleurs ici. Parce que je pense qu'en effet, ce sont les travailleurs, ceux d'en bas, ceux qui n'exploitent et qui n'oppriment personne, qui sont en mesure de changer cette société, cet ordre social.
Ils suivent leurs dirigeants, les travailleurs en question. Les Russes suivent Poutine et nous, on appuie plutôt nos dirigeants également. Donc les travailleurs, ils sont des suivistes.
Eh bien, monsieur Mazerolle, pas moi. Moi, justement, je ne fais aucune confiance dans le président de la République, dans Emmanuel Macron. Je ne lui fais aucune confiance. Alors, parce que je sais qu'en effet, il y a des arrière-pensées, il y a des intérêts, il y a des calculs. Autant, moi, je suis... Comment dire ?
Mais quelles arrière-pensées ? Je ne comprends pas.
Les arrière-pensées ? Mais quelles arrière-pensées de la France en Afrique, dites-moi ? Quelles arrière-pensées ? Eh bien, celles d'assurer les intérêts de nos très bons... capitaliste français, voilà.
Des intérêts économiques.
Les intérêts économiques.
Alors, il n'y a pas de lutte
Bolloré,
contre...
De Bouygues, extrêmement puissant en Afrique.
Alors, il n'y a pas de lutte contre les islamistes en Afrique ?
Non, je crois que... Non, bah, d'ailleurs, en tout cas, s'il y a cette... Ça a été un prétexte pour renforcer effectivement la présence française et puis parce que de toute façon ils préfèrent avoir des dictateurs qui sont bien à leurs bottes hein, et qu'ils puissent effectivement imposer un semblant de calme dans ces pays plutôt que des bandes armées. Donc oui, ils ont cette préoccupation-là, mais c'est pas pour le bonheur des peuples. Écoutez, si la France avait voulu le bonheur hein, des peuples en Afrique depuis le temps qu'elle y est, hein, comment expliquer que ce dénuement, cette misère, l'absence d'équipement élémentaire, comment l'expliquer ? La France, elle a une longue histoire avec l'Afrique, une longue histoire de colonisation. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a amené à quoi ? À cette situation-là. Donc, moi, justement, ce que je dis, c'est que je ne fais pas confiance dans Emmanuel Macron. Et je vois, par contre, tout cet élan de générosité. Qui est déployé par effectivement par les Français qui accueillent. Et là, il n'y a pas d'arrière-pensée. Là, précisément, c'est de la générosité.
Ils font des dons, qui se mobilisent d'ailleurs.
Voilà,
en
très
effet.
Bien. Mais encore une fois, tout ce qui va passer par nos dirigeants, il y aura des calculs et des arrière-pensées. Et vous dites que le peuple de Russie est derrière Poutine aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais peut-être que demain ça va changer.
Oui, et peut-être parce qu'il n'a pas vraiment le choix en même temps aussi. Alors, quand on voit hier des manifestations ont lieu à Moscou et les policiers sont arrivés, des gens qui faisaient un sit-in, c'est-à-dire qui étaient assis sur des bancs et qui manifestaient donc justement contre cette guerre en Ukraine, ils ont été arrêtés par les policiers. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi pour le peuple russe de s'exprimer totalement face à
Vladimir. Et vous voyez que malgré ça, il y a un courage qui s'exprime, une volonté de dire que cette guerre ce n'est pas la leur qui s'exprime. Eh bien moi, c'est là-dessus que je mise. Et ce que je sais, c'est que les souffrances, là, de toute façon, elles sont aussi pour le peuple russe. Il y a quand même déjà des milliers de familles qui comptent leurs morts. Hein. Donc, vous savez, de souffrance en souffrance, eh bien oui, un certain nombre réaliseront, hein, en tout cas, qu'ils doivent absolument contester et s'opposer à la politique de
Poutine. Vous parliez tout à l'heure des conséquences, en effet, sur la France, notamment, et sur le quotidien des Français, des conséquences parfois, en effet, indirectes ou qui sont pas de court terme, mais à moyen ou à long terme. Et les conséquences économiques pour la France, la flambée de l'inflation, notamment, et le gouvernement qui a donc pris des mesures, tout de même, pour préserver le pouvoir d'achat. Les 18 centimes donc par litre pour l'essence, le bouclier pour les prix des énergies, l'augmentation du SMIC. Tout ça, ce sont quand même des mesures, alors pas pour augmenter le pouvoir d'achat, clairement, mais pour le préserver. Là, vous ne faites pas confiance à ces mesures non plus ? Vous estimez que ce ne sont pas les bonnes mesures ?
Et si on arrêtait les spéculateurs ? Si on les empêchait de manipuler les marchés ? Ben oui, parce que...
C'est-à-dire, par rapport aux chiffres de l'inflation, vous dites ou...
Par rapport à la flambée du cours du pétrole, par rapport à l'augmentation du gaz, par rapport à l'augmentation brutale hein, du prix de l'énergie. Est-ce que le gaz n'arrive plus. Mais ça continue. Le gaz n'est pas coupé. Est-ce que le pétrole, c'est pareil? Enfin, et d'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir à quel prix ils ont acheté le baril de pétrole qu'on est en train d'utiliser?
Vous pointez du doigt un manque de transparence, en fait, finalement. Pour vous, c'est ça, en tout cas,
les grandes
finances et les financiers ne sont pas transparents.
Il y a zéro transparence, zéro transparence. Alors que tout le monde souligne la gravité de la situation, qu'en effet, on plonge dans une situation exceptionnelle avec une spirale inflationniste. Et si on prenait le problème à l'origine, c'est-à-dire justement si on allait voir et demander des comptes à ceux qui fixent les prix. Parce que ce n'est pas la loi de l'offre et la demande, ce n'est pas la main invisible du marché, vous savez, hein, comme on nous fait croire. Non, c'est qu'il y a des gros acteurs sur les marchés qui pèsent lourd et qui peuvent tirer les prix dans un sens ou dans un autre. Donc moi, je suis en effet pour qu'on fasse la transparence totale. Une des revendications que je porte et que j'essaye de populariser, c'est l'abolition du secret des affaires, qu'on donne la possibilité aux travailleurs, aux comptables, de dire ce qu'ils voient, voilà, de mettre les comptabilités. Là, on verrait tous ces spéculateurs, les profiteurs de guerre. Alors, ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, en effet, quand je vois que c'est une augmentation de tous les prix, y compris des prix des produits alimentaires, de la viande, du pain, enfin, de l'huile, y compris qui commence à être rationnée.
L'huile, c'est parce qu'il y a moins de production.
Oui. Alors, certains le trouveront légitime. Eh bien, pas moi, parce que justement, les coûts de production, en l'occurrence, ils sont les mêmes. Hein, donc, c'est quand même une façon de profiter, vous voyez, de la rareté pour s'en mettre plus dans les poches. Donc, moi, je ne trouve pas ça juste. Et je pense que face à ça, eh ben, il faut absolument que les travailleurs aient à cœur de dire indexation des salaires, des pensions de retraite, des allocations sur les prix. C'est-à-dire que nous, salariés, nous, retraités, nous n'avons pas cette possibilité.
Parce que tout augmente, mais pas les salaires, ça,
Tout augmente, sauf les salaires. Exactement, vous l'avez dit, tout augmente. Mais je souligne aussi que les profits augmentent, les dividendes augmentent, les grandes fortunes augmentent. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller prendre et qu'il faut permettre aux salaires d'augmenter et aux pensions de retraite d'être payées.
Alors la crise sanitaire et puis ensuite la crise, la guerre en Ukraine a quand même remis en question et remis en cause en effet le grand capitalisme et notamment peut-être l'effet des délocalisations. On s'est rendu compte qu'on produisait notamment par exemple les médicaments, les Doliprane qui étaient produits en Chine, on s'est dit qu'il faut relocaliser. Ça c'était peut-être quelque chose qui était votre créneau et puis... Les candidats, les différents candidats, bah, s'en sont emparés aussi avec cette crise. Et là, vous vous dites, tiens, finalement, ça, c'était ce qu'on disait, nous, depuis le début ?
Pas tout à fait, non, parce que nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que, en effet, les capitalistes, les grands groupes, ils ont une boussole. C'est leur fric, c'est leur portefeuille. Et ils s'en moquent, hein. Ils s'en moquent de fermer des usines ici, de créer du chômage, la désertification industrielle. De toute façon, voilà, ils sont guidés par cela. Et moi, ce que je sais, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. La vérité, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et que quand on nous explique que ah, voilà, et c'est bon, ils sont en train de relocaliser, ils sont en train de prendre conscience que il y a des choses qu'il ne faut pas faire et que quand même, voilà, on a besoin un peu d'industrie pharmaceutique en Europe. Eh bien, tout ça, c'est du vent.
Vous n'y croyez pas.
Je n'y crois pas. Ce que je pense, c'est que c'est surtout des prétextes à empocher des subventions incroyables, mais vraies. Hein, mais ils continueront de faire en fonction de leur portefeuille. D'ailleurs, j'étais à Lyon j'étais à Lyon avant-hier et on m'a parlé encore une fois de délocalisation, de fermeture d'une usine sous-traitant de Renault Trucks à Bourg-en-Bresse, hein, où d'ailleurs il y a une grève des ouvriers. Donc je les salue aujourd'hui, du coup. Mais voilà, ils continuent d'aller chercher finalement à des milliers de kilomètres des composants qui leur coûteront moins.
Alors vous dénoncez les travers du capitalisme, il y en a, c'est incontestable, personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un pays se référant au communisme qui a réussi ?
Et moi, je pense qu'il y a des périodes de l'histoire qui ont fait progresser, en effet, y compris les droits des travailleurs. Dans le cas de cette société capitaliste, ça a toujours été des périodes de lutte. Et ça, ce sont des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. En effet, moi, je me réfère, là, vous voyez, encore à mai 68. Parce que mai 68, ça a été une grève générale qui a conduit à quoi ? À augmenter le SMIC de 35%, vous voyez ? De 35%, alors même qu'on nous servait...
Et tout ça a été repris dans les années suivantes.
Oui, parce que précisément...
l'économie ne fonctionnait pas. et parce que la richesse n'était pas suffisante.
Ah non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est parce que dès que les travailleurs arrêtent de se battre, eh bien, en effet, les capitalistes reprennent pour faire flamber, encore une fois, leur fortune à eux. Donc voilà, on est confronté de façon incessante à cette rapacité. Donc moi, mon modèle, c'est ça, c'est les combats des travailleurs. C'est lorsqu'ils se sont justement révoltés, quand ils ont dit nos intérêts.
Donc c'est la lutte permanente, si je comprends bien.
Oui, bah, c'est la lutte permanente jusqu'à ce qu'on arrive à renverser cette société capitaliste. Parce que moi, c'est ça que je porte. Je porte cette idée que nous ne sommes pas condamnés à être dépendants d'un système où finalement, toute notre vie vont dépendre des lois de l'offre et de la demande, du marché, des cours boursiers. Je défends l'idée qu'on peut réorganiser ce système de façon collective, en donnant le pouvoir de diriger en fait aux travailleurs, c'est-à-dire à ceux qui font le boulot.
Mais moi, je pense où ça a marché, ça, le pouvoir donné aux travailleurs?
Eh bien, ça a marché dans les moments de lutte importante. Je pense à la Commune de Paris. Il y a eu des choses fantastiques qui ont été faites parce que là, enfin, on avait un pouvoir qui s'inquiétait de comment les femmes et les hommes pouvaient se loger, pouvaient se nourrir. Mais vous savez, les premières années de la Révolution russe, c'est ça aussi. Alors ensuite, oui,
ensuite, il y a des dirigeants qui prennent le pouvoir.
Oui, justement, ça, on peut faire autrement. On peut aller plus loin et on peut la changer cette société bien plus qu'on ne pouvait le faire il y a un siècle, parce qu'aujourd'hui on sait beaucoup plus faire les choses. Moi, j'ai été frappée, un autre modèle, vous savez, c'est même pas tellement dans l'histoire, enfin c'est dans l'histoire récente, ce qui s'est passé dans la pandémie. Regardez ce qui s'est passé au moment de ce confinement. Ça a été un moment où, y compris les hiérarchies, les actionnaires, tout ça, ils étaient loin, ils étaient confinés, ils pouvaient plus finalement agir comme ils le pouvaient. Les entreprises, elles ont continué de tourner. Regardez ce qui s'est fait dans les hôpitaux, en partant du bas, en laissant la possibilité à ceux qui savent faire le boulot d'organiser les choses. Eh bien, c'est là qu'on a réussi à faire des miracles. Moi, je suis convaincue que c'est comme ça que la société, elle peut tourner. Laissons les salariés, faire le boulot comme il se doit.
Vous êtes trotskiste, vous vous référez au trotskisme.
Pas au cabinet McKinsey, en effet.
Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais simplement, et vous avez fait référence une seconde au début de la Révolution russe, Trotsky, justement, parce que la bourgeoisie russe et parce que l'aristocratie russe résistait, Trotsky a dit « mais il faut être impitoyable pour maîtriser tous ces gens-là ». Alors comment imaginez-vous la révolution en France pour le régime que vous souhaitez instaurer, alors que évidemment il y aura le même réflexe de résistance de la bourgeoisie? Ça sera également impitoyable ?
Mais aujourd'hui, elle est impitoyable. Elle est impitoyable pour... ici, pour ceux qui sont exploités et qui appartiennent aux classes populaires, mais elle est impitoyable dans le monde. Dans le monde, regardez.
Mais comment vous voyez concrètement les choses en France?
Ce monde est impitoyable.
Est-ce que vous imaginez que ça peut se passer sans guerre civile en France?
Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour arrêter cette course folle dans le mur. Cette société, elle nous condamne encore une fois. Et vous savez, même en temps normal, entre guillemets, c'est-à-dire quand il n'y a pas une guerre qui fait rage en Ukraine, il y a une personne qui meurt toutes les 10 secondes de malnutrition. Mais on est où, là? On est où? Un monde comme ça, qui ne permet pas aux femmes et aux hommes de cette planète de vivre dignement, il ne peut produire que ça, que ces violences, que ces guerres. Donc oui, il faut le changer. Et moi, je le dis, les choses, elles viendront du monde du travail, de leur capacité de se révolter et de dire, finalement, c'est à nous d'organiser les choses.
Mais ça ne va pas se passer pacifiquement.
Parce que nous, on ne serait pas aveuglés.
Ça ne va pas se passer pacifiquement.
Moi, je ne sais pas comment ça fait compliqué quand on voit déjà des manifestations dans les rues, par exemple, des gilets jaunes.
Ah, c'est très compliqué. Mais encore une fois.
Pardon, mais c'est vrai.
Vous avez peur que la société soit remise en cause?
Non, je n'ai pas peur.
Mais moi, je dis que c'est une nécessité.
Je voudrais une précision. Nathalie Arthaud, vous parlez toujours des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que l'immense majorité des Français se lèvent pour travailler, payent leurs impôts. Ce sont des travailleurs. Alors, à qui vous vous adressez quand vous parlez aux travailleurs? C'est qui pour vous, les travailleurs?
Exactement, je m'adresse à ceux-là, je m'adresse à vous, je m'adresse à tous ceux qui galèrent avec des petits boulots, tous ceux qui sont en invalidité, tous ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, tous ceux qui appartiennent au monde du travail et qui doivent en effet se lever pour vivre, se lever le matin, aller bosser pour vivre, retrousser leurs manches. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas vrai pour toute la société.
Non, mais comment expliquez-vous ?
Je ne m'adresse pas, donc à qui je ne m'adresse pas ? Je ne m'adresse pas à tous ceux qui font fructifier leurs capitaux sans rien faire de leurs 10 doigts. Je ne m'adresse pas à tous ceux qui dominent aujourd'hui du haut de leur propriété privée capitaliste.
Vous vous adressez donc à tous les Français travailleurs, mais comment expliquez-vous que Lutte Ouvrière aujourd'hui ne représente, on va dire dans les sondages, et c'est la troisième fois que vous vous présentez à une élection présidentielle, vous avez fait 0,5 puis 0,6, là dans les sondages vous êtes à 0,5. Comment vous expliquez donc que vous ne galvanisez pas les troupes? ni les Français.
Parce que vous voyez, à la différence de tous les autres candidats, je ne me pose pas, moi, en sauveur suprême. Je ne dis pas, ben voilà, moi, votez pour moi, je vous donnerai 1000 euros par-ci, 1000 euros par-ça, et voilà, en veux-tu, en
les
voilà.
Les Français ne sont pas dupes là-dessus, je pense, hein, sincèrement. Mais d'ailleurs, on voit les chiffres de l'abstention et les gens qui, aujourd'hui, se posent beaucoup, beaucoup de questions. Certains le disent, n'iront pas voter pour la première fois de leur vie, alors que c'est des gens qui ont voté pendant 30 ou 40 ans, mais après 30 ou 40 ans de vie politique, eh bien, plus personne ne les intéresse et même plus personne, aucun candidat, même ceux qui se disent hors système. Pour eux, oui, c'est le système.
Mais justement, vous aurez remarqué que ce cirque, malgré tout, continue. Hein, c'est-à-dire, c'est les catalogues électoraux et il en faut un pour tout le monde. Et on sait très bien que ces catalogues électoraux, ces promesses, elles finiront à la poubelle, d'autant plus parce qu'il y a la grise crise
oui,
en fait, qui s'aggrave.
Oui, mais comment ça fait que vous, lutte ouvrière, n'arrivez pas,
parce que je ne joue pas ce jeu. Parce que je ne joue pas ce jeu et parce que je dis clairement que cette société, elle est à changer complètement et que je dis qu'en fait, c'est à tous ceux c'est à l'écrasante majorité de la population de faire les choses et qu'aujourd'hui, beaucoup se disent comment peut-on le faire? On arrive déjà, on a du mal à vivre, c'est difficile de se battre. Et oui, et ils sont confrontés à cette réalité-là. Eh bien, moi, je dis, il n'y aura pas le choix.
Pourquoi
il n'y aura pas le choix, il va falloir que ça vienne de nous.
Pourquoi qu'on se révolte. Représentez-vous plus les travailleurs que Philippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon?
Ah, alors que Philippe Poutou, écoutez, moi, je n'ai rien à. Je me sens effectivement appartenir au même courant que Philippe Poutou, avec les mêmes perspectives de changer la société, donc je dirais pas je me sens pas du tout en concurrence avec lui, mais par contre vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est des perspectives qui n'ont rien à voir, parce que justement Jean-Luc Mélenchon s'est voté pour moi, je ferai à votre place. D'ailleurs, vous n'aurez même plus besoin de manifester pour la retraite à 60 ans, puisque je vous l'accorderai. Votez pour moi, vous aurez le SMIC à 1400. Moi, je dis non, ça ne marchera pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Sûrement pas dans cette période-là où, en réalité, tout est en train de se tendre et où la lutte de classe, parce que la lutte des classes dans les entreprises, c'est du matin au soir et elle est féroce. Eh bien, moi, je dis non, les choses, elles viendront. Ça va dépendre de notre capacité à nous mobiliser, à nous rassembler et à partir nous-mêmes au combat. Il va falloir qu'on impose, en effet, la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, l'indexation, en se battant. Ce sont les luttes collectives. C'est ça la grande différence. Et moi, je vais vous dire que, en fait, je suis même un peu en colère quand je l'entends, parce que quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire, allez-y, je vais vous épargner des kilomètres de manifestation, parce que je pense que ça nous désarme. Ça nous désarme, nous, le monde du travail. Et ça nous fait perdre de vue, en fait, la seule leçon décisive et importante à avoir en tête. C'est que tout ce que nous avons obtenu de significative, nous, les travailleurs, dans toute l'histoire, ça a été le fruit de nos luttes collectives. Voilà, donc, vous voyez, bon, alors c'est peut-être, comment dire, on est peut-être à contre-courant en expliquant toute cette vérité-là. Parce qu'aujourd'hui,
c'est difficile.
Peut-être
que la révolution, c'est peut-être un peu utopique pour les gens qui, comme vous le dites d'ailleurs, se battent déjà au quotidien pour remplir leur frigo et puis pour faire le plein d'essence. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu utopique.
Ça peut paraître utopique et ça peut paraître, si vous voulez, quelque chose, une œuvre, une tâche finalement hors de portée. Mm. Mais en réalité, je pense que tous les jours, on réalise quoi? Qu'on va dans le mur. C'est des inégalités, c'est des difficultés pour vivre, même pour aller. Écoutez, quand vous avez des salariés, des aides à domicile, qui sont obligés, qui ne peuvent plus aller bosser parce qu'elles ne peuvent plus remplir leur réservoir d'essence. On va où, là? Et vous avez cette crise climatique, tout le monde réalise que là aussi, on est condamné. On est en train de condamner la planète, là. On est en train de... avec cette société capitaliste, l'humanité n'a plus d'avenir. Et puis les guerres. Donc oui, ça peut sembler... Mais moi, je dis tout simplement, vous savez, voilà, il faut qu'on se batte pour nos conditions d'existence. Battons-nous pour nos conditions d'existence, pour dire que les intérêts des travailleurs doivent passer d'abord et avant tout. Et là, on sera en capacité de prendre confiance dans nos forces, prendre confiance dans ce qu'on est capable de réaliser, comment on peut diriger cette société et de la changer du tout.
Vous dites que tout ce qui a été acquis, c'était par la lutte des travailleurs, mais je voudrais vous citer, par exemple, la sécurité sociale, qui est née, finalement, d'un compromis entre la bourgeoisie, le Parti communiste. Bref, finalement, est-ce que ce n'est pas une meilleure route vers l'accès à ce que vous souhaitez?
Je n'ai pas, moi, cette explication-là. Je pense que la sécurité sociale est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec y compris présente dans la conscience, y compris d'un De Gaulle, qu'il fallait absolument sortir la lance incendie, hein, parce que ce qu'on risquait au lendemain de cette Première Guerre mondiale, eh ben, c'était une vague révolutionnaire, c'était des révoltes généralisées, et qu'il fallait absolument prévenir tout cela, et puis permettre aussi accessoirement aux ouvriers d'être un peu soignés, hein, et de tenir sur leurs deux jambes pour aller bosser, pour reconstruire le pays. Donc ça a été encore une fois, en fait, une pression et un rapport de force qui a permis de faire naître, y compris cette sécurité sociale qui est en train de se réduire d'ailleurs comme peau de chagrin aujourd'hui. Donc non, c'est toujours, dans toutes les sociétés, vous savez, tout est le fruit d'un rapport de force. Et moi je tiens à dire, parce que je dis, voilà, les revendications, hein, notre droit à l'existence, imposer un minimum pour vivre de 2000 euros, ce qui paraît irréalisable, ce qui paraît impossible aux yeux de beaucoup. Vous savez, la différence entre l'impossible et le possible, c'est souvent le rapport de force. C'est souvent le rapport de force. Et quand on se bat, et quand on arrive à se faire craindre de ceux qui aujourd'hui sont bien installés et dominent du haut, hein, de tout leur pouvoir, que là, ils arrivent à faire des choses et que augmenter les salaires, répartir le travail pour qu'il y ait, que le chômage recule, se faire soigner, oui, ça devient
possible. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, vous en parlerez sûrement cet après-midi au Zénith de Paris, puisque c'est le grand meeting, le meeting national de lutte ouvrière. Merci d'avoir été notre invitée ce matin, et on se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite.